Bonjour Josy Riffo, nous sommes sur le point de débuter la 6e conférence de la Via Campesina ici, à Jakarta en Indonésie. Qu'attendez-vous de cet événement ?
C'est un moment important pour nous, les moments des conférences. Nous en sommes à notre 6e conférence, les 20 ans de Via Campesina. Donc c'est à la fois court et long. Ça veut dire que notre organisation s'est agrandie. C'est aussi, a beaucoup grossi, s'est renforcé avec la venue de plein de nouvelles organisations qui ont besoin de mieux comprendre qui nous sommes et qui ont aussi besoin d'apporter leur propre vision des luttes paysannes. Nous allons faire nos bilans, les bilans des 20 ans et aussi nos perspectives. Où est-ce que nous allons aller ? En 20 ans, les choses ont beaucoup changé au niveau du contexte international, par exemple. Nous pouvons voir que les crises se sont aggravées et que de plus en plus l'extermination des paysans s'est accentuée. Donc nous devons aussi voir comment nous allons ajuster nos luttes et puis nos victoires, nos propositions pour changer tout cela. Ce qui est très nouveau pour nous, c'est l'apparition d'une agressivité supplémentaire du capitalisme avec l'économie verte et toutes les fausses solutions face au climat. C'est une issue qui était déjà à l'état larvaire, qui préexistait, mais qui maintenant est vraiment au devant de la scène. Et comme ils disent qu'ils ont des nouvelles solutions avec l'économie verte, le marché du carbone, avec RED, toutes ces nouvelles solutions pour continuer à faire survivre le système capitaliste sont pour nous dramatiques. Nous les appelons les fausses solutions et ces fausses solutions face au climat sont vraiment terrible pour la paysannerie mondiale. Donc nous allons devoir nous mettre un focus sur cette question du climat qui est nouvelle. Nous avons beaucoup de travaux à mener sur la question des droits humains, des droits des paysans et des paysannes. Et nous travaillons durement avec les Nations Unies sur ces thèmes. Nous sommes aussi présents avec le Comité de sécurité alimentaire. Et tout ça, nous devons le partager avec nos camarades du monde et toutes les délégations de base des différents pays qui comprennent quelles sont nos stratégies et s'ils les approuvent. Comment nous allons continuer dans l'avenir avec toutes ces questions-là. Et puis nous avons nos propositions par rapport à la souveraineté alimentaire qui est vraiment notre axe principal. Gagner la souveraineté alimentaire, son droit et son application partout. Donc nous avons des propositions avec les marchés de proximité. L'agriculture paysanne avec l'agroécologie sont vraiment pour nous des fondamentaux. On ne peut pas imaginer une souveraineté alimentaire basée sur l'agro-industrie. Donc il y a vraiment tout un travail. De même qu'on ne peut pas imaginer la distribution de l'alimentation avec la grande distribution. C'est une autre société qu'il faut mettre en place et c'est un challenge dont la Via Campesina doit porter une grande part, doit expliquer. Ce qui est agréable, c'est de voir que nous avons beaucoup de partenaires, les Amis de la Terre, la Marche mondiale des femmes, mais aussi Focus on the Global South et tellement d'autres, Grain, le TC Group, tout ça, qui travaille avec nous pour réfléchir qu'est-ce qui se passe, faire l'analyse de ce qui se passe et quelles réponses à la fois militante, mais aussi active sur les fermes, nous pouvons apporter. Et c'est tout ça que nous allons, tout ça dont nous allons parler ici, et qui va nous permettre d'avoir un plan d'action, une ligne de conduite pour les 4 années à venir.
Josie, vous étiez en train d'analyser ce rôle du capital, des transnationales, des firmes, de ces fausses solutions. Cela existait déjà en 2008 lors de la précédente conférence internationale de Villa Campesina. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que depuis 4-5 ans, ces enjeux se sont terriblement accentués. Comment voyez-vous cette progression en ces temps de grande crise du capitalisme ?
En 2008, lors de notre dernière conférence à Maputo, nous avons déjà mis en première ligne de notre plan d'action, premier point, la lutte contre les transnationales. Donc nous avions déjà identifié que c'était notre ennemi et notre plus gros problème aujourd'hui. Depuis, il y a eu une aggravation de la crise du capitalisme. Et le problème, c'est que avec cette aggravation de la crise capitaliste, ils ont amené des nouveaux outils qui sont encore qui vont encore dans le sens négatif pour les paysans. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'économie verte. Ils disent, pour sortir de la crise, il n'y a que la croissance. Il faut encore croître et croître. Ils ne prennent pas en compte les limites de la terre. La terre est limitée, les ressources sont limitées. Nous ne pourrons pas continuer à croître et à extraire comme ça de la terre jusqu'à quand ? Si nous continuons, la terre sera tellement détériorée que les humains ne pourront pas continuer à y vivre. C'est un massacre de la terre. Les accords de Cochabamba qui reconnaissent le droit de la terre-mère sont fondamentaux pour nous. Il faut avoir une autre relation à la terre, non pas une relation d'extraction, mais une relation harmonieuse où la terre donne et nous la respectons pour ce qu'elle nous donne, mais nous savons nous aussi lui donner tout ce dont elle a besoin, et notamment du respect de son cycle, du cycle de l'eau, du cycle des forêts, de tout ça. Au lieu de cela, les propositions qui sont faites par l'économie verte, RED, les mécanismes du marché du carbone, eux, ils vont vers davantage de pillage et davantage d'extraction. Pour légitimer cela, ils veulent sanctuariser quelques forêts. Mais en sanctuarisant des espaces, des forêts, ils expulsent les peuples indigènes. Et s'ils expulsent les peuples indigènes, l'harmonie qui existait entre eux et la forêt va disparaître. Et qu'est-ce que sera cette forêt ? Et puis, il y a une très grande hypocrisie dans leur façon d'utiliser les forêts, les arbres, puisqu'ils disent que les palmes à huile, par exemple, palmiers à huile, peuvent être intégrés dans le marché du carbone. Donc on est dans une vision complètement folle du futur en ce qui concerne l'agriculture. Ils parlent de smart agriculture, d'une agriculture intelligente face au climat. C'est terrible parce que cette agriculture-là, c'est une agriculture sans paysans. C'est une agriculture avec des énormes industries de tracteurs qui passent sur des milliers d'hectares en monoculture avec des agrotoxiques de tout genre. C'est la destruction totale de la terre. C'est pas du tout le cycle harmonieux que peut entretenir le paysan avec sa terre ou la paysanne. Avec l'agroécologie, il y a un respect du cycle, une compréhension des mécanismes vitaux. Avec l'agro-industrie, ils veulent simplement dompter la terre, la soumettre à la productivité, mais en même temps, ils la détruisent. Un des grands dangers aujourd'hui, c'est qu'il y a un accaparement aussi de la terminologie d'agroécologie. Parce que évidemment, ils voient bien qu'il y a un problème avec leur mode de production. Et ils essaient de nous faire croire qu'il y a des possibilités industrielles d'adaptation. Alors, ils disent qu'ils vont arrêter de retourner le sol. Et du coup, ils vont nous parler du soja responsable. Il va être responsable, ce soja, parce qu'il va émettre moins de gaz à effet de serre, soi-disant, parce qu'on n'aura pas le labour. Ils trouvent plein de supercheries. Pour nous, pour moi, ce sont vraiment des... Ils se moquent de nous. Mais le problème, c'est qu'ils sont très puissants et qu'ils avancent et que certaines populations peuvent se laisser berner par ces illusions. Un de mes slogans favoris, c'est de dire que l'agriculture industrielle, elle ne nourrit pas les humains, elle les affame. Les problèmes de la faim n'ont jamais été aussi importants. Et c'est pas parce que les paysans ne produisent pas assez, c'est parce qu'ils ont été exclus de leurs terres, parce qu'on leur a arraché les meilleures terres, on les a empêchés de produire pour nourrir les peuples. L'agriculture industrielle, elle produit beaucoup, 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 mais en même temps, elle détruit et en même temps, elle produit pour devenir des déchets sans même avoir été consommés parce qu'il n'y a pas de distribution égalitaire. Nous n'avons pas de problème de production au niveau mondial. Nous avons un problème de partage, d'inégalité. Et ça, jamais le système capitaliste ne le résoudra. Au contraire, puisque c'est sa base, c'est son fondement. Il s'est construit sur cette base-là. Donc il ne va pas la résoudre. C'est son essence, c'est sa propre vie. Donc il ne résoudra jamais ses problèmes. Et au contraire, moi je suis très inquiète. Je suis très inquiète et je pense dans l'avenir probablement m'engager davantage dans les mouvements pour la paix. Parce que là, comme il n'y aura pas de tout pour tout le monde, on va vers des guerres. Et pour moi, la guerre du Mali en est une. Et on a besoin d'uranium. Comme par hasard, on fait une guerre soi-disant pour soutenir le peuple malien. Moi, personnellement, c'est un avis personnel. Je n'y crois pas. Ce sont toujours des guerres d'appropriation. Des guerres, ce sont des nouvelles guerres coloniales. Hein, on est là et on dit où c'est qu'on veut avoir de l'influence et on se partage les richesses au détriment des populations locales. Et pour continuer le système tel qu'il est, on aura besoin de plus en plus de phosphate, on aura besoin de plus en plus de minerais de tout genre. Donc, il va y avoir de plus en plus de conflits. Et on voit bien que leur façon d'étendre les bases militaires, d'étendre leurs interventions, de montrer leur capacité guerrière, c'est pas innocent. C'est bien qu'ils veulent faire preuve d'une grande capacité de maîtrise. Quand un peuple voit des rafales arriver, ces avions guerriers, quand il voit des tanks, etc., évidemment que sa capacité de lutte est quand même réduite. Il a peur, et il a raison d'avoir peur, parce qu'ils sont très méchants. Et les femmes, dans ces situations-là, sont particulièrement touchées. On avait vu avec la marche mondiale des femmes l'exemple du Congo pour le coltan, c'était terrible. Les viols des femmes, c'est horrible. Et on sait que chaque fois qu'il y a des guerres, évidemment que la première arme de guerre, c'est le viol. Et ça, c'est inadmissible. Et je suis très préoccupée par l'avenir à cause de tout cela. Et c'est pour ça que je suis en lutte.
Josie, Alberto Gomez m'a confié, il y a environ 2 ans, lors du sommet des Nations Unies sur les changements climatiques à Durban, que nous avions déjà réussi à atteindre les gens et les institutions internationales grâce à notre combat pour la souveraineté alimentaire. Nous avons par exemple réussi à intégrer ce genre de concept dans les institutions existantes. Et la prochaine étape pour nous, c'est la reconnaissance de cet enjeu par les gouvernements. Et après 1 an et demi, presque 2 ans, certains gouvernements ont intégré la souveraineté alimentaire dans leur constitution. Nous avons le Venezuela, par exemple, où les députés parlent d'une loi sur les semences, visant à lutter contre les OGM et pour la souveraineté alimentaire. Josie, comment percevez-vous cette prochaine étape cruciale dans le combat de Villa Campesina?
En septembre dernier, en 2012, nous avons eu un séminaire à Mexico sur les politiques publiques. Parce qu'effectivement, ça fait partie de nos préoccupations. Comment les mettre en place, ces politiques publiques? Qu'est-ce que ça veut dire des politiques publiques en faveur de la souveraineté alimentaire? Parce que l'inscrire dans la Constitution, c'est une chose, mais ça n'est pas suffisant. Et on sait bien que même des gouvernements avec qui nous pouvons nous sentir un petit peu proches, ces gouvernements-là subissent eux aussi les pressions, le lobbying de l'industrie. Donc il y a des efforts à faire pour aller en avant. Et ça ne peut avancer que si tout est mis en marche en même temps. On ne peut pas prioriser une chose et puis une autre. Ça va être les droits des femmes dans les politiques publiques. Nous, on a eu un atelier, par exemple, dans lequel on a parlé de la nécessité d'avoir des politiques de santé publique dans les campagnes, parce que les femmes paysannes sont aussi des mères, et pour pouvoir enfanter de façon sereine, nous avons besoin. Et ça fait partie de la souveraineté alimentaire, parce que si les femmes... S'il n'y a pas des politiques publiques de santé dignes, les femmes ne peuvent pas être actives comme il le faut et sereines. Donc des politiques de santé, des politiques de distribution des terres, des politiques pour les semences, tout ça, ça va ensemble. On ne peut pas les dissocier, il ne suffit pas de faire une politique pour les semences. C'est bien déjà d'avoir des règles pour les semences. Mais il faut en même temps une politique sur la distribution des terres. Et nous ne demandons pas le droit de propriété, nous demandons le droit d'usage des terres. Une politique aussi sur l'eau. Toutes les issues sont amenées en même temps. Et il faut d'abord une conviction absolue de ces politiques que les paysans peuvent nourrir les populations et qu'on n'a pas besoin des industries. Il faut défaire cette idéologie parce que même dans nos rangs, il reste beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui pensent qu'on ne peut pas faire sans l'industrie. Et c'est là qu'il faut défaire cette idéologie, la couper nette pour pouvoir partir sur d'autres bases. Oui, nous sommes suffisamment nombreux à vouloir être paysans et paysannes pour nourrir les peuples. Il faut défaire les grandes propriétés, il faut distribuer la terre et faire en sorte que les populations puissent vivre. Mais ça veut dire qu'on change de système. On négocie pas avec le système, on le change. Si on le change pas, on n'y arrivera pas. Alors la période transitoire, comment on s'y prend, ça reste à trouver. Mais il faut d'abord, dans son mental, avoir bien compris qu'il faut une rupture avec l'existant. On ne pourra pas composer avec Monsanto. On ne pourra pas composer avec Cargill, Syngenta. Il faudra faire sans eux. Et on peut faire sans eux. On peut exister sans Carrefour. On peut. Ils ne nous sont pas utiles. Ils sont nuisibles. Et ça, c'est pas facile à faire comprendre.
Encore deux autres questions, Josie. Quel regard portez-vous sur l'Assemblée des femmes qui s'est tenue ici?
C'était fort. C'était une belle Assemblée des femmes. Il y avait une grande présence indonésienne. Il est clair que nous n'avons pas toutes le même niveau de réflexion par rapport à la question féminine. Et les témoignages des femmes d'Inde et d'Indonésie, d'Asie en général, sont très poignants par rapport aux souffrances qu'elles peuvent endurer, par rapport à la place qu'elles peuvent avoir dans le foyer domestique. Mais j'espère que nous leur avons apporté des éléments très importants pour qu'elles puissent trouver les moyens de travailler vers une libération et une compréhension de ce que peut être le féminisme. Nous avons eu un axe fort pour dire que nous voulions que la lutte de Via Campesina soit féministe, Et des femmes ont posé des questions sur ce que ça voulait dire, parce qu'elles disaient que elles voulaient rester dans leur famille et elles voulaient continuer à être des mères, elles voulaient continuer à être des paysannes. Mais il n'est pas question d'arrêter d'être des mères et arrêter d'être paysannes. Il est question de trouver un autre équilibre dans la famille et le foyer, où la place des femmes est valorisée, où son travail est reconnu et n'est pas un individu de deuxième zone. Elle doit être une personne à part entière et pas soumise au bon vouloir de son mari, avec tous les problèmes du mariage forcé, avec tous ces problèmes-là. Il doit y avoir une compréhension qu'on peut vivre autrement, qu'on peut avancer, et j'espère vraiment que notre venue pourra les aider à trouver des outils pour sortir de cela, mais avec aussi leur propre vision, leur propre culture. Nous n'avons pas à imposer le féminisme ici, mais nous avons à expliquer qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous faisons, où nous en sommes. Qu'est-ce qui se passe avec les traditions, avec la religion? Nous ne sommes pas contre la tradition, la religion, mais à condition qu'elle ne soit pas sur des fondements machistes et violentes envers les femmes. Donc il faut aussi repenser les religions, repenser les traditions pour qu'elles soient en faveur des femmes respectueuses. Et chaque culture doit évoluer à sa manière, mais cet échange, à mon avis, est fondamental pour qu'on puisse toutes évoluer, parce qu'il n'est pas question de laisser des sœurs au bord de la route. Il faut que toutes nous avancions, et nous ne voulons pas non plus les forcer à avancer, mais nous voulons essayer de donner des outils, faire comprendre ce qui se passe et comment on pourra vivre en harmonie avec la terre et aussi en harmonie avec les hommes. Cesser la domination.
Josie, pour terminer, de manière globale, qu'attendez-vous concrètement de cette 6e conférence internationale de la Via Campesina? Quels sont les domaines majeurs dans lesquels il faudrait réussir à avancer?
Mon espoir, c'est qu'on arrive à déjà à se donner l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer, parce que c'est une lutte très difficile. Nous voyons bien que nous avons des monstres en face de nous, ce sont des montagnes monstrueuses en face de nous, qui prévoit des choses catastrophiques à notre insu. Donc il faut que nous nous donnions la force de lutter. Et ça, je crois que l'énergie, il y a une spiritualité générale qui nous donne cette force. Donc je n'ai pas de doute que nous puissions la gagner, cette force. Et puis la stratégie, comment nous allons faire? Et ça, c'est le travail que nous allons mener là, avec quelles priorités on se donne, comment on s'y prend et comment on se partage le travail pour pouvoir gagner davantage de lutte. Il y a la fête de nos 20 ans, cette fierté d'avoir si bien réussi à être reconnue sur le plan international, à faire entendre notre voix paysanne. Et puis il y a quand même aussi une grande ouverture qui se dessine, c'est notre transfert vers le Zimbabwe. Nous allons migrer d'ici la fin de 2013 vers le Zimbabwe. Une femme sera notre porte-parole internationale. Donc c'est des signes africains, une femme africaine. Je pense que ce sont des signes, un symbole très fort de l'avenir de notre mouvement et aussi de l'avenir de la paysannerie, parce que l'Afrique aujourd'hui fait partie effectivement des continents les plus malmenés pour ce qui est des hommes et des femmes, des enfants, mais aussi des richesses du continent. Il y a une volonté d'accaparement de l'Afrique en général qui est finalement très riche, qui fait peur. Et si nous arrivons à nous unir tous et que l'Afrique soit l'un des piliers de notre mouvement, j'espère que ça peut donner, c'est nos raisons de lutte, l'espérance. Hein. Nous globalisons cet espoir, cette lutte pour que demain, les paysans continuent de nourrir les populations et même soient de plus en plus nombreux pour arrêter les problèmes de la faim.